voudrais déjà démarrer rapidement ma prédication ce matin. J'ai un titre, on met toujours des titres dans nos messages, et le titre que je voudrais vous partager est un peu provocateur, mais vous allez vite comprendre pourquoi et là où je voudrais vous amener. Le titre de mon message, c'est « La solitude, ça n'existe pas ». Alors, ceux qui ont connu les années 70, et particulièrement un chanteur qui s'appelait Gilbert Bécaud, a chanté ce chant, justement, « La solitude, ça n'existe pas ». Et si vous connaissez un petit peu la fin de ce chanteur, il s'est retrouvé dans la solitude. Il s'est retrouvé seul. Il s'est retrouvé face à lui-même alors qu'il avait des foules, alors qu'il y avait des amis qui l'adulaient, et puis là, voilà, il se retrouve dans cette solitude. Et si vous regardez un petit peu le texte de cette chanson, vous apercevrez qu'il fait un pied de nez, justement, quelque part, à cette solitude. Selon un sondage, on estime à peu près à 6 millions de personnes souffrant de la solitude. Et quand vous regardez au niveau des couches de la société, qu'elles soient basses, moyennes, hautes, on trouve toute cette souffrance quant à la solitude. Et même au niveau de la jeunesse, et je vais en parler à la fin, nous trouvons des hommes et des femmes souffrant de cette solitude. Et nous sommes dans un monde où les gens n'ont jamais été aussi seuls. Jamais été aussi seuls, malgré les moyens de communication les plus performants, puisque beaucoup de gens aujourd'hui ont le téléphone portable, des mails, les textos, les réseaux sociaux. Et malgré cela, malgré la technologie, eh bien, nous sommes là face à un véritable désastre quant à la solitude. Plus on augmente la communication technologique, et plus on s'éloigne de la communication de cœur. Et on s'aperçoit que la technologie a finalement éloigné les hommes et les femmes de cette relation de cœur à cœur. Il existe finalement deux solitudes. La première, c'est la solitude choisie. La seconde, c'est la solitude subie. Et on va voir les deux ce matin. Je vais d'abord apporter très rapidement cette solitude choisie, qui est indispensable, que nous avons besoin de vivre, d'exercer, de prendre pour soi. La première choisie, c'est la prière. Dans Luc 5, 15 à 16, il est dit « Jésus se retira dans le désert et priait ». Dans Matthieu, chapitre 6 à 6, il dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Vous connaissez ce texte. Là, c'est la solitude, je dirais, choisie. Nous sommes là dans la prière. Il y a cette solitude pour nous sortir des pièges. Dans Jean, chapitre 6, verset 15, il dit « Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. » Alors qu'on allait choisir pour lui sa destinée, il s'est retrouvé volontairement à sortir de cette foule et se retrouver seul devant Dieu. La solitude choisie pour rechercher justement Dieu. Et là, nous trouvons un texte dans Daniel chapitre 10, verset 8, où Daniel dit « Je restais seul et je vis cette grande vision ». Vous savez que c'était pendant ce temps de jeûne et de prière de 21 jours, où il s'est retrouvé à chercher la face de Dieu. Et là, il était là seul, dans la solitude, recherchant la présence de Dieu pour lui-même et pour son peuple. On peut se retrouver seul pour rester dans le silence. Dans Lamentations, chapitre 3, verset 28, il nous a dit qu'il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel lui impose. Pas toujours facile d'être silencieux dans la prière. Hein, on a souvent tendance à louer le Seigneur, à l'adorer, à être là, à vraiment exprimer avec tous nos poumons la puissance de Dieu dans notre vie. On l'adore, on le loue, on le glorifie. Mais il y a des moments où le Seigneur va te demander le silence. Parce que dans le silence, Dieu veut te parler. Dans le silence, Dieu voudra s'adresser à toi. Dans le silence, Dieu voudra te susciter dans ton cœur, à l'oreille, des choses que tu ne pourras pas entendre dans le vacarme. Rester dans le silence. Et puis aussi rester dans la solitude pour trouver le repos physique et spirituel. Dans Matthieu chapitre 6, verset 31, Jésus leur dit « Venez à l'écart dans un lieu secret et reposez-vous un peu. » Et Dieu va te demander à un moment donné de te reposer. Parfois on fait de la suractivité dans la foi chrétienne. Parfois il y a une activité excessive. C'est beaucoup d'activisme. à défaut de vraiment œuvrer pour le Seigneur. On fait beaucoup, beaucoup, beaucoup en s'épuisant, alors que le Seigneur, à un moment donné, il va te dire « Stop, arrête là !» Et bon, à un moment donné, de te retrouver seul, à rester dans sa présence, à rester à te reposer, à te détendre, parce que Dieu a besoin de toi pour plus tard. Et puis nous avons besoin aussi de nous retrouver seuls pour gérer le deuil, la souffrance. Des moments où on passe des difficultés, on perd peut-être un être cher, on perd peut-être un proche, on est peut-être dans la souffrance, dans la maladie. Et la parole de Dieu nous le montre, après l'annonce de l'exécution de Jean, Jésus se mit à l'écart. Et puis un petit peu plus loin, dans le jardin de Gethsémané, dans la crucifixion, la Bible nous dit qu'il s'éloigna pour prier. Il a même laissé ses disciples. Il aurait pu se retrouver avec les disciples en disant « Allez, on va intercéder, priez pour moi parce que je vais monter sur la croix. » Ils auraient pu se remobiliser dans l'intercession. Non, pas du tout. Dans ce moment de souffrance, il a voulu et il avait un besoin de se retrouver seul. Avant de se retrouver ensemble, il avait besoin de se retrouver face à face avec son Père céleste. Et ça, j'appelle ça la solitude choisie. Et puis, il y a la solitude subie. Cette solitude-là qui, bien souvent, nous fait souffrir. La Bible nous dit que nous sommes créés relationnels. Dieu nous a créés relationnels. Dans Genèse chapitre 2, verset 18, il dit que Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Souvent, on prend ce texte pour le mariage, mais il ne s'est pas dit que c'était pour le mariage seulement. Il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu le dit à un moment donné où Adam n'avait pas encore péché. Il était dans un lieu, dans un parc, il était dans la présence de Dieu, dans le parfait, dans l'excellence, à un moment où il n'avait pas le péché qui était venu pour l'écraser. Il était vraiment dans le bien-être de Dieu, dans la présence de Dieu. Et là, à ce moment-là, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous avons besoin d'être connectés avec les autres. Nous avons besoin d'avoir une relation avec les autres. Pourquoi ? Parce que tout le monde a peur d'être oublié. Tout le monde a peur d'être négligé. Et c'est vrai que nous sommes dans un monde où les gens ont besoin d'être considérés, d'être valorisés, d'être aimés, d'être respectés. Il y a quelque chose qui est terrible dans cette société, c'est l'indifférence. L'indifférence. Où des gens, non seulement ils sont isolés, mais on ne les calcule même pas, on les ignore. On passe à côté. Et peut-être que tu subis ou tu as subi cela, ou tu as fait subir cela. Mais nous sommes dans un monde où nous avons besoin d'être aimés, non ? Vous croyez ? Est-ce que vous voulez être aimé ? Est-ce que vous voulez être valorisé ? Parce que si tu n'es pas d'accord avec moi, avance de suite, je vais prier pour toi. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la prétention. On a besoin d'être aimé, on a besoin d'être respecté pour ce que nous sommes. La solitude, ben, elle est parfois subie, et il y en a un qui a subi la solitude, c'est Élie. Il a vécu cela. Le prophète Élie qui s'est trouvé seul après une grande victoire contre les 400 prophètes de Baal. Il s'est senti abandonné. Il se dit dans 1 Roi, chapitre 19, verset 10, il dit ceci, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchèrent à m'enlever la vie. » Élie vient devant Dieu et dit « Seigneur, ton peuple dont moi je fais partie, eh bien, et là, à t'abandonner, ils abandonnent ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué les prophètes, ils cherchent à m'ôter la vie. » Et à ce même moment, il dit quelque chose de très fort, un sentiment de solitude qui est amplifié par une injustice. Il dit « J'ai déployé tout mon zèle pour toi. » Et non seulement j'ai déployé tout mon zèle pour toi, mais je suis resté moi seul. Il aurait pu dire « Je suis resté seul. » Non, moi seul. Il précise que c'est vraiment lui. C'est moi, Seigneur. Je suis resté seul. Je suis resté là, abandonné. Il y a combien de frères et sœurs qui se sont déployés pour l'Éternel ? Qui se sont mis en quatre pour Dieu, pour l'Église, pour l'œuvre de Dieu, avec le sentiment de solitude, le sentiment que finalement personne ne vous comprenait, le sentiment que finalement cette solitude vous gagnait parce que les gens ne venaient pas vous soutenir, vous aider, vous accompagner, vous assister. Personne n'est venu l'aider. Tous m'ont abandonné, c'est le sentiment d'Élie dans son cœur. Personne n'a voulu être aussi zélé que lui. Et on a des gens comme ça, des frères et sœurs qui ont même quitté des églises à cause de ça. De s'être donné à fond dans une église, sans aucune considération, sans aucun respect. Même à la limite, quelque part, il y a comme un sentiment d'injustice, parce que le zèle n'a pas été récompensé, parce que ce zèle, ce résultat, a été pris par quelqu'un d'autre. Nous avons réussi. Comment nous avons réussi? C'est moi qui l'ai fait tout seul. J'ai réussi. Mais ça, on ne l'écoute pas. Il y a quelqu'un, une voix plus forte que l'autre, qui va dire, nous avons réussi. Certaines personnes se seront appropriées tout ce zèle que tu as donné. Et se seront pris cette pseudo-gloire pour eux-mêmes, en disant, nous avons réussi, alors qu'il n'était même pas là pour s'investir. Un sentiment d'injustice qui fait que dans ton cœur, tu as laissé des blessures. Comme quelque chose qui est là, qui, oh, c'est pas de la haine, mais c'est de l'amertume. Et tu n'arrives pas à guérir ces choses-là. Et Élie s'est retrouvé face à cela dans sa vie. Élie a ressenti le poids et la responsabilité de son leadership. Parce qu'on peut être leader à tous les niveaux. Pas besoin d'être chef d'entreprise. On va en parler tout à l'heure, vous allez voir la solitude du chef d'entreprise. Mais on peut être leader à la maison. Conduire un foyer. On peut être leader dans une association dans laquelle on s'est investi, à notre travail, peut-être avec une équipe que nous devons gérer. Leader dans une église, au travers de tout ce que nous avons pu vous donner comme responsabilité, en tant que pasteur, ancien, responsable de département, leader, vous aurez à faire face à la solitude face au service. Isolé face à vos responsabilités. Isolé face à des décisions à prendre, face à des choix, face à la gestion d'équipe, face à la gestion du temps. Où on ne verra pas ce frère, cette sœur qui gère ce département rester là que la réunion se termine, il va monter à l'étage, travailler jusqu'à 23h, minuit. Tout le monde est parti, il reste seul à l'église à œuvrer, à travailler pour faire avancer son département. Ou peut-être le samedi toute la journée pour que le dimanche tout soit prêt pour son équipe. Or, le dimanche, bien sûr, les frères et sœurs vont dire « Ouais, c'est bien ce que tu as fait. Oh, c'est formidable. » Ils vont profiter de quelque chose que lui s'est donné du mal à faire toute la journée de samedi. Et cette journée de samedi, ses frères qui sont dans cette équipe se sont peut-être, je dirais, amenés à faire plein de choses à l'extérieur. Ils n'ont pas pris ce temps pour ça, alors que lui, ce responsable, a pris ce temps. Tout seul, dans son coin. Sans prendre peut-être un seul instant à cette équipe à réaliser tout l'investissement qui s'est donné ce frère à cette sœur tout ce samedi. Il y a des frères et sœurs qui pourront se sentir peut-être frustrés par rapport à ça. Et quand on se retrouve face à la gestion du temps, face à une gestion d'équipe difficile à gérer, parce qu'il y a des caractères, parce qu'il y a des problèmes, on a peur d'en parler au pasteur. On craint d'en parler au pasteur, non pas que le pasteur va nous reprocher quoi que ce soit, mais le pasteur nous a donné cette responsabilité. Alors ce n'est pas pour que nous, on aille le voir à nouveau pour qu'il résout le problème, puisque je suis le responsable. Et je me retrouve là seul, parce que je ne peux pas en parler à mon équipe, je ne veux pas en parler au pasteur. Et je me retrouve là, isolé devant cette situation, peur de l'échec, du regard des autres. Peut-être l'impression qu'on ne va peut-être pas me considérer, peut-être on va même me dire que je suis incapable. Alors que la parole de Dieu nous parle, et on va le voir par la suite, qu'il faut en parler, il faut sortir de l'isolement. Il faut sortir de ce piège, de ce mutisme. Il y a un frère qui était à deux doigts du burn-out à un moment donné. Et heureusement qu'on en a parlé ensemble parce qu'il allait complètement exploser dans son service. Tout cela parce que c'est tabou de parler de ça. C'est tabou de parler d'isolement. C'est tabou de parler de cette solitude. Et pourtant, c'est une réalité. À tous les niveaux, à toutes les échelles de la société, de notre activité, de ce que nous faisons, nous allons tôt ou tard nous retrouver face à une solitude. Et nous avons besoin de briser le silence. Nous avons besoin de poser le problème. Parce qu'autrement, on va s'enfermer. Et comme vous pouvez dire David, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Et on s'enferme. Et on aggrave le problème. Et on se fait du mal. Et on ne dort pas la nuit. Et on est troublé. on est complètement chamboulé, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on pète complètement et on ne comprend pas pourquoi cette situation est arrivée là. Parce qu'à un moment donné, on ne peut plus résister. On ne peut plus contenir cette solitude. On ne peut plus contenir ce mutisme. Alors de grâce, frères et sœurs, si tu te retrouves devant cette situation, et avant de tomber peut-être dans une situation encore plus grave, viens nous en parler. Partageons ensemble. N'aie pas peur d'échanger tes problèmes, tes difficultés, tes défis qui sont là, parce que ça nous arrive à tous, même nous en tant que pasteurs, de parler de nos défis, d'avoir des conseils, d'avoir des retours, d'expérience, savoir comment il faut apporter, négocier la situation, parce qu'on se retrouve parfois à des problèmes, face parfois à des murs. Il faut avoir suffisamment d'humilité pour reconnaître que d'autres personnes sont capables de pouvoir nous aider. Vous ne croyez pas ? Au lieu de rester dans la solitude. Moïse a connu la lourde responsabilité de diriger dans cette solitude. Dans Moïse, dans Nombre chapitre 11, versets 14 à 17, je vais relever juste cette phrase. Il dit « Je ne peux pas, à moi tout seul, porter tout ce peuple, car il est trop lourd pour moi. » Quelle humilité ! Attendez, c'est Moïse quand même. Moïse qui avait un défi de sortir 1 500 000 personnes de la terre d'Égypte pour la mener à la terre promise. Et là, à un moment donné, il se retrouve en disant « c'est trop gros, c'est trop lourd pour moi ». Alors que Dieu lui avait donné cette responsabilité, mais là, à un moment donné, il a eu un stage en formation de leadership. Jéthro, son beau-père, est venu le voir, dit « je vais t'expliquer comment il faut gérer ce nombre de personnes. Tu vas prendre des responsables de 1000, de 100, de 50, de 10, et tu vas les gérer, tu vas conduire ces leaders, tu vas les booster, tu vas les encourager, et eux-mêmes vont faire une partie de ton travail. » Nous avons besoin de parler, nous avons besoin de réaliser que finalement, on ne peut pas tout faire tout seul. Et Moïse a eu suffisamment d'humilité pour en parler avant d'exploser, d'échanger, avant de se miner, avant de se détruire. Il aurait pu dire, mais attends, je suis quand même Moïse, c'est Dieu qui m'a choisi personnellement. Je ne vais quand même pas parler de ma faiblesse. Je ne vais quand même pas exposer ce point faible. Ça serait une honte pour moi parce qu'il y en a qui pensent comme ça. Et ça, c'est de l'orgueil. Nous avons besoin de réaliser que l'œuvre ne nous appartient pas. Et quel que soit ce que nous faisons, même nos foyers ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu. Le travail aussi, Dieu nous l'a donné. Nous avons besoin de réaliser qu'à un moment donné de notre vie, nous avons besoin d'échanger, de partager, de pouvoir exposer peut-être nos défis qui sont là devant nous. David s'est souvent trouvé dans une situation de désespoir, de solitude, puisqu'il dit dans le psaume chapitre 25, verset 16, il dit « Regarde-moi, ô Éternel, et fais-moi grâce, car je suis seul et malheureux. » C'est quand même intéressant ce qu'il dit là. Lui, David, la solitude l'avait gagné, et pas seulement la solitude, mais aussi la tristesse avait atteint son cœur, puisqu'il dit ceci, il dit « Regarde-moi, ô Éternel, fais-moi grâce, car je suis seul et malheureux. » On peut être malheureux. On peut avoir de la tristesse dans notre cœur à cause de la solitude. De savoir que finalement, on n'est pas calculé, savoir qu'on n'est pas, considéré. Savoir qu'on fait beaucoup de choses, mais on voit très peu de résultats. Et se retrouver isolé et être malheureux à cause de ça. Et c'est pour ça qu'il dit ce psaume un petit peu plus tard, il va écrire, il va le chanter. Dans le psaume 34, verset 6, il dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le délivre. » Il va écrire sa propre expérience. Il va même la chanter. Il va même la proclamer parce qu'à un moment donné de sa vie, il a été malheureux. À un moment donné, j'imagine qu'il a pleuré devant Dieu. Seigneur, je ne suis pas compris. Seigneur, je parle, mais j'ai l'impression que les gens autour de moi ne me calculent pas, n'arrivent pas à saisir. Il y a comme parfois une sorte d'apparence qui est là. On peut être seul dans un groupe aussi. Se retrouver en groupe, à quelques amis, et puis vous avez toujours, vous savez, la tête forte, celui qui a le bagou plus que les autres. Et qui parle, qui parle, et qui parle. Et puis vous avez les autres qui essayent de mettre une parole de temps en temps. Et puis vous avez celui qui est complètement exclu. Parce qu'il est timide, parce qu'il est réservé, peut-être parce que la conversation, ben, il ne la maîtrise pas, il n'ose pas. Et un jour, je me suis retrouvé dans un groupe comme ça. Et puis, je me rappelle qu'il y avait un frère qui était un petit peu de côté. Et puis, j'ai commencé à lui poser 2-3 questions pour l'inclure dans la conversation. Et là, il a commencé à nous parler. Et puis, la manière comme il parlait, et puis la tournure de la conversation a fait que tout le monde s'est arrêté pour l'écouter. Et il avait des choses à dire. On aurait pu le mettre de côté parce qu'il y avait d'autres conversations très intéressantes, mais lui aussi avait des choses intéressantes à dire. Et frères et sœurs, nous avons besoin d'être à l'écoute des autres. Parce qu'un chrétien, c'est ça, c'est être à l'écoute des autres aussi. Parce que si nous avons besoin, et si nous voulons que les gens soient à notre écoute, nous avons aussi besoin d'être à l'écoute des autres. Si nous voulons que les gens s'intéressent à nous, nous avons besoin de nous intéresser aux autres. La solitude peut être aussi dans une foule, en pleine foule. Nous avons 900-950 personnes à l'église au travers des différents cultes. Et te retrouver seul parmi la foule. 350 personnes ici là maintenant, et te retrouver seul parmi toute cette foule. On peut souffrir quand on connaît trop de gens, mais pas assez d'amis. Et parfois dans l'église, c'est ça, c'est qu'on connaît beaucoup de gens, mais pas assez d'amis. Parfois même pas du tout. On connaît des gens, on est là, on converse avec eux, mais ça ne va pas plus loin. Peut-être que j'ose pas aller plus en avant avec eux, eux n'osent pas non plus, peut-être à un moment donné, ils ne veulent pas pour X raisons, et finalement, on a beaucoup de gens, on connaît beaucoup de gens, mais pas d'amis. Alors, vous savez, je n'ai pas l'habitude de le faire, mais on va le faire maintenant. On va se lever à notre place. Allez-y, levez-vous, n'hésitez pas. Vous avez des voisins, des proches, des gens devant, derrière vous, vous allez les saluer. Et vous serez bien de les accueillir fraternellement. Vous pouvez sortir des rangs, hein, aller voir à droite, à gauche. On se prend 2-3 minutes. Allez, c'est parti. Allez, vous pouvez vous saluer. Hein. N'hésitez pas. Hein. Vous en avez à côté, devant, derrière vous. Réalisez qu'il y a une belle famille. Il y a plus qu'une foule à l'église Paris-Métropole. Il y a un peuple. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça fait du bien, hein, plein de prédications de se lever comme ça. Hein. On n'a pas l'habitude. Hein. Bon, si vous voulez continuer la conversation, ça sera après. Hein. Laissez-moi prêcher, laissez-moi finir. Vous comprenez ce que je veux dire? On a une superbe équipe à l'accueil, mais ce n'est pas suffisant. À un moment donné, il faudra aller plus loin. Et c'est vrai qu'on peut se retrouver face à une foule, plein de gens autour de nous, mais se retrouver seul face à la réalité. La solitude du pouvoir aussi, des responsabilités, de certains chefs d'entreprise qui se retrouvent là face à eux-mêmes, face au poids, à la responsabilité de leur entreprise, au poids, à la responsabilité de pouvoir faire vivre cette boîte afin de donner du travail à ceux qui arrivent tout juste à joindre les deux bouts. Et tout au long de leur responsabilité, ils ont parfois l'impression que les gens s'approchent d'eux par intérêt. On va le voir pour une augmentation, on va le voir pour nous faciliter peut-être un congé, on va le voir pour ceci, on va le voir pour cela. Et tout au long de l'année, on va voir le patron pour un besoin particulier, mais lui seul, lui face à ses responsabilités, qui va l'écouter? Et on a des chrétiens qui parfois, en tant que chef responsable, en tant que chef d'entreprise, se retrouvent seuls. Alors oui, bien sûr, on a tous notre Dieu. Merci, Dieu merci que nous avons le Seigneur. Mais à un moment donné, quand on a affaire face à une entreprise qui a quelques difficultés parce que la conjoncture actuelle fait qu'aujourd'hui, c'est difficile de pouvoir faire face, pouvoir joindre le debout, pouvoir répondre aux besoins de peut-être honorer les contrats. Quand on est face peut-être à des soucis peut-être familiaux et qu'on ne peut rien dire à personne, qu'on ne peut pas partager cela forcément à un employé parce que l'employé n'est pas là pour ça. On va en parler peut-être à notre chef d'entreprise, mais chacun a ses problèmes, on va juste les échanger et ça n'ira pas plus loin. Et je sais qu'au milieu de nous, il y a des frères et sœurs qui sont là face à leurs responsabilités, mais seuls. Et en tant que dans l'équipe d'intercession et dans la responsabilité de l'intercession avec l'association Ciel Ouvert, nous voulons vraiment travailler dans ce sens-là. Nous voulons vraiment aider les frères, les sœurs qui ont des responsabilités aussi. qui sont peut-être face à des lourdes responsabilités en tant que chef d'entreprise. Nous voulons être à leur écoute. Nous voulons prier pour eux. Nous voulons venir les voir, non pas pour leur demander quelque chose, mais venir leur voir, les voir pour leur poser la question, qu'est-ce que sont vos besoins, vos défis, vos difficultés, vos luttes, vos combats, dans l'entreprise, pour vous-même, dans votre foyer, dans votre famille. Essayez de les écouter, essayez de faire sortir de leur cœur peut-être cette solitude qui les enferme. Et ils n'ont pas le droit à l'échec, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Parce qu'ils sont face à de lourdes responsabilités par rapport à ça. Et je crois que nous avons besoin de les aider, de leur tendre la main. C'est pour ça que s'il y en a au milieu de nous, nous voulons vous aider, nous voulons vous accompagner. On a des frères ici, des frères et sœurs qui sont responsables, qui sont chefs d'entreprise. Et avec eux, nous travaillons pour vous aider, pour essayer de vous accompagner. Parce qu'on ne peut pas rester seul. On ne peut pas rester dans cette solitude. On ne peut pas rester là face à nos responsabilités, à se miner le cœur, la vie. Et c'est pour ça que David dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je ne peux rien dire, je ne peux rien partager à qui que ce soit. Parce qu'à qui parler? À qui échanger? Paul s'est senti aussi seul face à ses détracteurs. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 16, il dit ceci, « La première fois que j'ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu m'assister, tous m'ont abandonné. » Waouh ! Vous savez que l'apôtre Paul, plusieurs reprises, il dit, mais il faut renoncer à soi-même pour gagner Christ. Lui a su se dépouiller, a su nous montrer cet exemple en tant que serviteur de Dieu, cet exemple de dépouillement total, de renoncement à lui-même. Et pourtant, dans ce texte, il parle de souffrance. Il en parle non pas pour se plaindre, mais il sent que vraiment, il y a comme quelque chose qui l'a agacé, qui l'a gêné dans son cœur. La première fois que j'ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu m'assister, tous m'ont abandonné. Lui qui est entouré de frères, de sœurs, on l'admirait pour son ministère, pour son enseignement, de partout où il passait. J'imagine que vraiment on le félicitait. Oh frère, le message que tu nous as donné, c'était formidable. Oh merci pour les miracles que Dieu a accomplis au travers de ton ministère. Et à chaque fois, il a été peut-être adulé, l'apôtre Paul. C'était quelqu'un, l'apôtre Paul. Sauf que là, il était seul. Il aurait pu avoir de l'amertume. Il aurait pu dire, mais c'est tous comme ça, ils sont tous comme ça, les chrétiens. Quand tout va mal, il n'y a plus personne. Il aurait pu avoir de l'animosité, il aurait pu avoir même de la haine. Il aurait pu faire un message carabiné, une lettre qui nous aligne, mais pas du tout, rien de tout ça. Il soulève juste un point, c'est qu'à un moment donné, certains frères et sœurs n'ont pas été attentifs à sa solitude. Et il le dit, sans haine, sans animosité, mais il y avait une souffrance. Et peut-être que toi, tu es devant cette souffrance, dis-le, partage-le. Parce qu'on a le droit de partager notre souffrance. On a le droit de sortir de l'isolement. On a le droit de briser ce qui nous fait mal. Parce qu'on ne peut pas rester comme cela. Parce qu'on ne peut pas se miner avec ça. Et il le dit même un petit peu avant, dans 2 Timothée 1,15, « Ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. » C'est-à-dire qu'à un moment donné, lui, l'homme de Dieu, s'est retrouvé seul. La solitude, dans le couple aussi, on pourrait faire une prédication. Peut-être que j'en ferai une dans quelques temps là-dessus. Quand on n'est pas compris dans son conjoint, auprès de son conjoint, peut exister là alors un fossé, une distance. Alors là, il y a danger. Je voulais vous dire une chose, ouvrir une parenthèse, la refermer. Si tu cherches, mon frère, ma sœur, à te marier pour briser la solitude, tu fais fausse route. On ne se marie pas pour briser la solitude, on se marie parce qu'on aime son conjoint. Et ceux et celles qui voudront avoir cette pensée, cette folie de dire « je veux me marier pour briser cette solitude », tu vas entraîner la solitude même au milieu de ton couple. Il y a combien de couples aujourd'hui qui se sentent seuls? Combien de frères, de sœurs, d'hommes et de femmes qui ne se comprennent plus alors qu'ils sont deux? On ne se marie pas pour combler un vide, on se marie parce qu'on aime. Et ça, je parle particulièrement aux jeunes. Vous voulez vous engager pour construire un foyer, faites attention à ça. C'est pas le couple qui va remplir votre solitude. C'est tout ce que vous allez faire autour, comment vous allez gérer cela, comment vous allez, je dirais, combler ce vide qui est là au plus profond de ton cœur. La solitude chez les jeunes, j'en parlais tout à l'heure au début de ma prédication. Dans un sondage Sofres, il est dit que 74% des jeunes disent avoir déjà souffert de solitude. Et bien souvent, au cœur du foyer, parce qu'il n'y a pas d'écoute, parce qu'il n'y a pas d'attention, parce qu'il n'y a jamais de temps pour les enfants. Il y en a déjà très peu pour son conjoint. Alors imaginez le temps qu'on pourrait avoir pour les enfants. Il y a de véritables souffrances au niveau de la jeunesse. Pourtant, ils ont tout pour être heureux, mais finalement, ils sont malheureux pour beaucoup d'entre eux. Parce qu'il y a un manque qui est en forme de Dieu. Parce qu'il y a un manque qui est là, qu'ils ont besoin de combler. Je parlais même de la solitude chez les aînés. Arrivé à un certain moment de la vie où les enfants, les petits-enfants, courant d'un côté de l'autre, n'ayant pas forcément toujours le temps d'aller voir ses grands-parents, il y a cette solitude qui est là, cette frustration qui est là. Et il y a un formidable département au milieu de nous, c'est Visiteurs pour Christ que M. Boulagnon conduit. Et là, il y a vraiment un accompagnement parce qu'il y a des frères et sœurs, parce qu'il y a des amis qui ont besoin de combler ce manque, ce vide. Et nous avons besoin de le faire, frères et sœurs, de combler ce vide, parce que si toi, tu as besoin de le combler, d'autres ont aussi besoin de le combler. Et c'est en écoutant les autres que tu seras aussi comblé. Et je vais terminer avec Jésus qui s'est retrouvé seul, rejeté par les siens. Jean 16, 32, formidable verset, mais qu'on pourrait s'approprier pour chacun d'entre nous. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Le Père est avec moi. Notre Dieu est avec nous. Et pour conclure, je dirais ceci, que si nous voulons combler ce vide avec les gens, si nous voulons briser cette solitude, eh bien, nous pouvons, nous devons écouter au lieu d'entendre. Il y a combien de frères et de sœurs, il y a combien d'hommes et de femmes qui préfèrent entendre que d'écouter. Il y a une différence entre entendre et écouter. Parce que nous pouvons entendre la personne sans forcément l'écouter. On peut entendre quelqu'un dans la foule, mais on ne peut pas écouter quelqu'un dans la foule. Et si nous voulons briser, je dirais, cette distance, nous avons besoin d'écouter les gens, plus que de les entendre. Parce que dans les entendre, il y a du bruit. Dans l'écoute, il y a les paroles, il y a les mots qui rentrent. Et je crois que si nous voulons vraiment briser la solitude, nous avons besoin d'écouter les gens qui nous entourent. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous, que nous puissions être à l'écoute de ceux qui ont quelque chose à dire. Parce que bien souvent, le premier pas sur la solitude est là, c'est qu'on n'a pas su écouter les personnes. Il y a des gens qui ont parlé, et puis vous avez l'impression qu'il n'y a pas de retour. Ça vous est jamais arrivé, ça? Vous parlez à une personne, elle vous répond, mais à côté. Vous êtes là, c'est bizarre. Ça n'a pas atteint mon cœur, qu'est-ce qui s'est passé? N'écoute pas, là. Ça vous est jamais arrivé, ça? Écoute pas, là, c'est pas possible. Il y a des gens qui vous écoutent pas. Et je crois que si nous voulons vraiment briser la solitude, il faut écouter, frères et sœurs. Nous avons besoin d'être écoutés, mais il faut aussi écouter pour pouvoir vraiment prendre une victoire sur ce qui triomphe de cette société et que nous voulons absolument refuser au sein du peuple de Dieu. Et moi, je parle pour moi-même, je parle pour l'équipe pastorale, je parle pour chacun d'entre nous, dans le leadership et à tous les niveaux de la société, à chaque niveau, pour chacun d'entre nous, que nous puissions prendre conscience que les gens ont besoin d'être écoutés. Alléluia, plus qu'entendu. Amen. On courbe nos fronts ensemble. Seigneur, je veux te remercier parce que tu es un Dieu de grâce. Merci parce que, Seigneur, toi, tu fais plus qu'écouter. Seigneur Jésus, tu es là. Seigneur Jésus, Tu as un regard sur notre vie, tu as un regard sur notre cœur. Tu nous regardes, Seigneur Jésus, et plus qu'entendre, tu écoutes notre plainte, tu écoutes notre souffrance. Tu prends garde, Seigneur Jésus, à nos blessures. Tu prends garde, Seigneur Jésus, à nos combats, à nos luttes intérieures. Tu es là, Seigneur Jésus, à combler un vide, Seigneur Jésus, qui est parfois réel chez les frères, chez les sœurs, et je veux te prier ce matin. Je veux te prier parce que, Seigneur Jésus, je veux croire que toi seul, Seigneur, tu es capable de faire ce miracle dans notre vie. De nous donner, Seigneur Jésus, à ne pas seulement entendre, mais à écouter les gens. Et Seigneur Jésus, que les gens puissent aussi, Seigneur Jésus, nous écouter. Que vraiment, Seigneur, tu permettes que nous puissions être attentifs à ce qui nous entoure. Que Seigneur Jésus, prenions, Seigneur Jésus, garde à ne pas marginaliser les gens, ceux qui nous entourent. Seigneur, à faire attention dans notre leadership, à pouvoir partager nos luttes, nos combats, de ne pas garder cela pour nous-mêmes, à rester dans le mutisme, à nous faire du mal, à avoir des nuits blanches, à essayer de trouver des solutions. Seigneur, alors qu'une simple parole, lâcher la parole de Dieu à un responsable, à un pasteur, permet de pouvoir avoir une solution, résoudre un problème comme l'a pu faire Moïse, David, l'apôtre Paul. Seigneur, étends tes mains sur nos vies, parce que c'est toi le héros. C'est toi, Seigneur, qui donne la solution à ton peuple, à tes enfants. Alors, touche-nous, Seigneur, ce matin. Et fais ton œuvre, Seigneur, au plus profond de nos cœurs. Que ton nom soit glorifié, Père. Amen.